J'ai toujours beaucoup de plaisir à venir ici à Woluwe parce que j'ai passé beaucoup, beaucoup d'heures de mon adolescence quelque part par là. Et beaucoup de mes amis actuels sont des amis que j'ai fait ici dans cette église. Donc c'est toujours vraiment un plaisir. Ce matin, j'aimerais démarrer en vous posant une petite question. Et pour stimuler un peu l'assemblée que vous êtes, la question est la suivante. Le 20 juin prochain, il y a une journée mondiale spéciale qui est célébrée, ou en tout cas qui est proposée par l'ONU. Est-ce que vous savez quelle est la thématique de cette journée spéciale, le 20 juin prochain? Vous pouvez essayer, hein. Tenter des thématiques. Ma fille fête ses 2 ans, mais ce n'est pas la thématique de la journée mondiale, même si ça pourrait... Non ? J'ai entendu la bonne réponse déjà. Exactement. C'est la journée mondiale des réfugiés. Et justement, ce matin, il va en être question des réfugiés. Et je suis à moitié italien comme Giuseppe, donc je bouge un petit peu. Donc, en effet, ce matin, il va être question des réfugiés. Et la Bible que vous avez tous est remplie d'histoires de réfugiés, parfois tragiques, parfois heureuses, mais toujours avec une leçon. Thématique du jour, j'étais un étranger. Et je suis un jeune papa, je commence à avoir l'habitude de raconter des histoires, alors je vais ce matin vous en raconter une également, une histoire d'une réfugiée qu'on connaît tous. Imaginez-vous, nous sommes dans les champs autour de Bethléem, en Judée. Il y a eu une longue sécheresse, mais la pluie est revenue et les moissons sont bonnes. Nous avançons un peu plus dans ce champ et nous voyons un riche propriétaire qui vient vérifier ses terres, riche propriétaire du nom de Boaz, exactement. Il vient, comme tout propriétaire, voir si la moisson est bonne, voir si les rentrées vont être suffisantes. Et tout de suite, ce propriétaire, ce Boaz, remarque quelque chose d'étrange. Il remarque une personne dans son champ qu'il ne connaît pas, quelqu'un qu'il n'a pas l'habitude de voir. Et à cette époque, Bethléem, c'était pas Bruxelles, c'était pas 1 million d'habitants. Donc, en tant que propriétaire, en tant que notable, il connaissait plus ou moins tout le monde. Mais elle, il ne l'avait jamais vue. Alors, premier réflexe, il va voir son contremaître. Et il lui demande, mais qui est cette femme qui se balade comme ça dans mon champ? Et surtout, c'est intéressant de le voir dans la Bible, à qui appartient-elle? Le contremaître lui répond, eh bien, c'est Ruth, elle est moabite, c'est la belle-fille de Naomi, qui vient de rentrer de Moab. Elle est venue aujourd'hui demander si elle pouvait glaner derrière nos moissonneurs. J'ai pensé que tu n'y verrais aucun inconvénient. Elle travaille dur, elle s'est à peine arrêtée de toute la matinée. Alors, vous voyez déjà que le contremaître, il connaît très bien son maître. Il savait que son maître n'y verrait pas d'objection à laisser cette femme dans le champ ramasser les restes de la récolte. On connaît en général très très bien cette histoire, l'histoire de Ruth. On sait, le texte nous le dit, qu'elle n'est pas israélite, qu'elle ne vient pas du royaume de Juda. Mais d'où vient-elle? Le texte nous dit qu'elle est moabite, donc elle vient de la terre de Moab. Terre de Moab qui aujourd'hui correspond à quel pays à votre avis, plus ou moins rapidement? Jordanie, exactement. Vous avez toutes les bonnes réponses, ça va être facile. Jordanie, exactement. Les Moabites faisaient remonter leur généalogie jusqu'à Lot. Ils étaient donc clairement apparentés aux enfants d'Israël. Et pourtant, quand ils venaient, quand ils traversaient la frontière, ils étaient considérés comme des étrangers. Ils étaient assez mal vus et on préférait les voir chez eux qu'en terre de Judée. L'histoire nous dit aussi que trop rapide, que Ruth avait épousé un homme qui venait justement de Judée. Cet homme avait quitté son pays à cause d'une sécheresse et s'était installé en terre de Moab, avait épousé Ruth. Malheureusement, maintenant, elle était veuve et elle avait décidé de retourner dans la terre, finalement, de son mari, pensant être bien accueillie. Et veuve, à cette époque, vous pouvez vous en douter, ce n'était pas comme à l'heure actuelle. C'était relativement difficile puisque vous n'aviez pas de travail, a priori. Vous n'aviez pas non plus de propriété. Et enfin, il n'y avait pas de sécurité sociale. Si un homme, un oncle, un fils ne s'occupait pas de vous, vous étiez démunis. Situation donc difficile pour Ruth, situation un peu inextricable. Donc décision de sa part, avec sa belle-mère, de quitter la terre de Moab et d'aller en Judée. On peut se douter que, à l'époque, cette condition vous mettait assez en difficulté. Vous pouviez difficilement faire autre chose que mendier, et fatalement avec tous les risques au niveau sécuritaire que ça pouvait comporter. Ruth vient donc d'arriver à Bethléem avec sa belle-mère. Elle n'a fatalement que quelques affaires sur elle, et la vie clairement s'annonçait assez difficile. Elle était pauvre, elle était veuve et elle était étrangère. Elle était dans un pays qu'elle ne connaissait pas. Et la Bible nous dit quand Naomi et Ruth arrivent dans la petite ville de Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet. On peut comprendre, petite ville, personne étrangère. On peut penser qu'elle était habillée peut-être différemment, qu'elle se comportait peut-être différemment. Toute la ville fut étonnée à leur sujet. Et puis, il faut s'imaginer à l'époque, deux femmes qui voyagent seules. Les questions commencent à affuser dans les habitants de Bethléem. Où allaient-elles vivre, ces femmes? Qui allait s'occuper d'elles? Qui allait les protéger et qui allait les nourrir? Petit mélange de textes. Heureusement, Ruth connaissait bien la tradition en terre de Judée. Elle savait qu'en venant sur ces terres, en venant à Bethléem, elle pourrait bénéficier de la tradition d'hospitalité. Elle savait donc où elle allait et elle savait pourquoi elle y allait. Et ces traditions étaient issues de règles que Dieu avait données à Moïse. De règles très claires. Le peuple de Dieu ne pouvait pas mal interpréter ces règles. Et on va s'y plonger. On l'a lu avec Giuseppe, Deutéronome, chapitre 10, versets 17 à 19. Première consigne. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des deux et Seigneur des Seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne fait pas considération de personne et qui ne reçoit pas de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'immigrant et lui donne nourriture et vêtements. Vous aimerez l'immigrant, car vous avez été immigrant dans le pays d'Égypte. C'est clair. Et Ruth, elle est veuve, et en plus elle est immigrante. La consigne est donc claire pour les habitants de Bethléem, la consigne est claire pour les habitants de Judée. Et Dieu fatalement donne des consignes, mais il donne aussi un moyen d'aider ces personnes, d'aider cet étranger qui est dans le besoin. Et le moyen, on le connaît évidemment encore à l'heure actuelle, c'est le glanage. Alors souvenez-vous de la petite histoire, on voit qu'elle est dans le champ, mais elle fait une action, elle fait quelque chose dans ce champ. L'instruction par rapport au glanage, très claire également, quand vous ferez la moisson, ce qui était le cas, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qu'il reste à glaner. Tu abandonneras cela au malheureux et à l'immigrant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je ne sais pas vous, mais ces deux textes sont clairs. Il n'y a pas d'interprétation possible. Les consignes, le moyen pour aider l'étranger, pour aider la personne dans le besoin. Et on voit à travers ces deux textes que Dieu aime l'étranger, qu'il s'intéresse et qu'il se préoccupe de son sort. Et il donne les clés pour agir avec bonté, compassion et générosité. Revenons à l'histoire. Dans cette histoire, on va le voir, il y a trois visions qui s'affrontent. Et on le sait, on le voit quand on lit le texte, quand on fait quelques recherches. Ruth était pauvre, c'était une étrangère, elle était considérée comme un poids par les habitants de Bethléem. Et il faut bien se rendre compte qu'ils étaient remplis de préjugés et de suspicions à l'égard de tout étranger qui venait chez eux. Ce n'était pas propre à Ruth, c'était en général. Ça n'a pas beaucoup changé, malgré le temps qui a passé. Les questions qui pouvaient se poser à l'époque sont les mêmes qu'on se pose aujourd'hui. C'est pourquoi cette étrangère vient-elle dans ma communauté? Qu'est-ce qu'elle y attend? Pourquoi elle ne reste pas chez elle? Est-ce que c'est si terrible chez elle qu'elle doit venir chez moi? Et est-ce qu'elle ne peut finalement pas rentrer chez elle? Je veux bien l'accueillir un petit peu, mais est-ce qu'après elle ne peut pas rentrer chez elle? On peut supposer que c'était les questions que les habitants de Bethléem avaient en tête. Première vision, les habitants. Deuxième vision, c'est la plus belle, c'est la vision de Dieu. Et Dieu, quand il voit Ruth, il ne voit pas une étrangère, il ne voit pas une veuve, il ne voit pas quelqu'un qui est obligé de ramasser les restes dans les champs pour survivre. Non, il voit quelqu'un d'un prix inestimable. Il voit l'arrière-grand-mère du roi David, une ancêtre du Christ. Si les habitants de Bethléem avaient eu cette notion, je pense qu'ils auraient un peu hésité avant de sortir les interrogations qu'ils sortaient. Ancêtre du Christ. Deuxième vision, la vision de Dieu. Troisième vision, le dernier protagoniste, c'est Boaz. Le texte nous dit que Boaz est un homme de Dieu. Homme de Dieu, ça veut dire qu'il connaît les enseignements. C'est un homme de tradition, d'hospitalité. La preuve en est, c'est que son contremaître n'a même pas eu besoin d'aller lui demander, il avait déjà pris la décision, sachant que son maître Boaz allait de toute façon accepter d'avoir un étranger ou une étrangère sur ses terres. Et enfin, c'est quelqu'un qui faisait preuve d'amour et de bonté envers les étrangers. Amour et bonté envers les étrangers. Le texte nous dit également que par la suite, il a assuré la protection de Ruth, il a fini par l'épouser et il l'a intégrée, elle et sa belle-mère, dans son foyer. Cette triple vision, avec une vision qui se confronte aux deux autres, finalement montre le genre d'amour et de compassion que Dieu nous amène à montrer, à manifester dans notre vie quotidienne par rapport à ceux qui sont dans le besoin et par rapport plus spécifiquement dans ce cas-là aux étrangers. Le texte que nous lisons dans Deutéronome, que nous avons lu dans Deutéronome, ce n'est pas une citation isolée, ce n'est pas un petit texte perdu dans la Bible. Des textes qui donnent des consignes et qui invitent à montrer de la compassion et de la bonté envers les étrangers, il y en a des tas. Il y en a des tas aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Partout dans la Bible, le peuple de Dieu est appelé à montrer de la compassion et de l'amour à son prochain, que ce soit veuve, orphelin, étranger. Peu importe. Autre texte, Malachi. Je vous invite à ouvrir Malachi chapitre 3, verset 5. Je vous laisse quelques secondes pour prendre le texte. Autre texte donc qui parle justement du comportement à adopter. Ce texte lui parle principalement d'un moment bien précis. Il parle du jour du jugement. Et le prophète Malachi dit très clairement, ce sera un jour difficile pour ceux qui n'auront pas agi équitablement envers les veuves et les orphelins et les étrangers. Prenons le texte. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Je serai un prompt accusateur contre les magiciens et les adultères, contre les parjures, contre ceux qui exploitent l'ouvrier, le salarié, la veuve et l'orphelin, qui oppriment les migrés et ne me craignent pas, dit le Seigneur de l'univers. Là aussi, c'est clair. C'est dur, mais c'est clair. Le même message a été également transmis par Jésus, mais de manière un peu plus douce, comme il avait l'habitude de le faire. Une manière un peu plus positive. Et ça, on voit dans tous les textes de Matthieu. Il parle également du dernier, enfin, lors de son dernier sermon, pardon, du jour du jugement. Et il dit ceci, Matthieu 25, 32, 33, ce qu'on a lu précédemment. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera comme un berger sépare les brebis des boucs, les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Voyons maintenant, allons un peu plus loin dans le texte par rapport à ceux qui sont à sa droite. Qu'est-ce que ça signifie ? Et on peut aller plus loin dans la lecture de Matthieu. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Et ça, c'est le verset qu'on connaît tous par cœur. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, en prison et vous êtes venu à moi. » Et alors, si on va jusqu'au verset 40, les gens sont étonnés. Il pose la question clairement, mais Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire ? Et Jésus leur répond, verset 40, en vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Encore une fois, c'est clair. Ce matin, nous nous concentrons donc sur la notion d'étranger et sur l'histoire de Ruth. J'étais étranger et vous m'avez recueilli, accueilli. Et il faut bien se rendre compte qu'à l'heure actuelle, on sait, en tout cas c'est plus facile pour nous d'aider les pauvres, les affamés ou d'aller visiter les malades, que d'avoir une attitude envers les étrangers. Et je parle étranger, je ne parle pas quelqu'un qui vient d'Italie comme votre frère Giuseppe et qui vient dans votre église. Non, je parle de ceux qui ont vraiment des cultures totalement différentes et qui, par la force des choses, se retrouvent parmi nous. Et il faut bien se rendre compte qu'avec tous les problèmes de sécurité, les problèmes qu'on rencontre dans nos vies de tous les jours, le temps qui file sans arrêt, la difficulté qu'on a déjà à rencontrer nos voisins, alors accueillir les étrangers. Eh bien, ce matin, on va trouver quelques éléments de réponse pour savoir comment accueillir l'étranger. Et la meilleure des techniques, c'est retourner au mandat biblique, aussi simple que ça. Et pour retourner au mandat biblique, il faut se plonger dans la culture également de l'époque biblique. À l'époque biblique, les gens voyageaient la plupart du temps à pied, ceux qui avaient un peu plus d'argent en chameau ou à deux ânes. Et fatalement, les distances étaient très courtes à parcourir, on ne pouvait pas parcourir beaucoup de distance. Et donc, quand la nuit commençait à tomber, ben, fatalement, on s'arrêtait là où on était et on essayait de trouver un abri, de trouver un refuge. On était vulnérable face, évidemment, aux bandits, aux brigands, face aux bêtes sauvages. Et on cherchait donc quelqu'un qui pratiquait le code d'hospitalité. Si on avait de la chance, on trouvait, on entrait. On recevait de l'eau, de la nourriture et un endroit sûr. C'était un code d'hospitalité, de survie, disons ça comme ça. En Judée, cette tradition d'hospitalité se remontait déjà à l'époque d'Abraham. Vous connaissez tous le texte dans Genèse 18. Abraham, on le voit dans l'image, ouvrait les quatre pans de sa tente, dans un accueil complet. Et c'était tellement normal pour lui que le texte nous dit qu'il n'a même pas reconnu Dieu et ses anges quand ils se sont installés sous sa tente. C'était quelque chose de normal pour Abraham. On ouvre, on partage, aucun problème. Et cet ancien code d'hospitalité n'était pas propre aux Juifs. Il était largement répandu. Et dans ces contrées du Moyen-Orient, il existe encore aujourd'hui. Pour une simple raison, c'est que celui qui montre de l'hospitalité aujourd'hui peut bientôt lui-même en avoir besoin quand il doit voyager ou fuir. Ça, c'était d'application à l'époque biblique, ça l'est toujours à l'heure actuelle dans plusieurs contrées. Dans certaines cultures, la pratique de l'hospitalité va si loin que même si votre ennemi blessé se présente à votre porte, vous prenez soin de lui. Et ce n'était pas propre aux nomades et aux marchands, et ce ne l'est toujours pas. Également, les gens qui fouillaient à l'époque biblique des conflits pouvaient se mettre sous la protection de nations pratiquant l'hospitalité. Ces nations s'engageaient à les accueillir, à les aider à s'installer si les gens le voulaient, ou à retourner chez elles si elles le souhaitaient. Et toutes ces traditions d'hospitalité ont survécu, je le disais, jusqu'à nos jours, dans plusieurs pays, dans plusieurs cultures, dont un pays en particulier. Est-ce que vous savez lequel ? Si vous avez suivi le début, Non. La Jordanie, exactement. Parallèle intéressant. Pourquoi je parle de la Jordanie ? Parce que, évidemment, c'est un pays excessivement accueillant. Je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà été en Jordanie. Mais en Jordanie, très clairement, il ne faut pas longtemps avant qu'on vous propose, même dans la rue, une tasse de thé, à venir manger, et peut-être même à rester un peu plus dans la famille qui vous accueille. C'est quelque chose de normal. C'est quelque chose d'inné, d'automatique. Une authentique hospitalité. C'est évidemment lié à la tradition bédouine, en tout cas en Jordanie, et ça en fait un pays très très particulier. Mais pourquoi je vous parle de la Jordanie ? Vous allez me dire quel est le rapport avec les réfugiés ? Eh bien, vous le savez peut-être, mais vous le savez certainement, nous vivons une crise majeure, migratoire, en Europe, dans le monde, avec plus ou moins 65 millions de personnes qui ont dû quitter leur foyer pour une raison soit économique, soit de guerre. On meurt des deux. On peut craindre pour sa vie dans les deux cas. 65 millions de personnes donc qui ont quitté leur foyer. Jordanie. Pourquoi je vous parle de la Jordanie ? Eh bien parce que c'est le pays au monde qui a accueilli le plus de réfugiés depuis le pic de 2015 de la crise migratoire. Alors, rapidement, donnez-moi un chiffre. Est-ce que quelqu'un sait combien de dizaines, centaines, milliers, millions de réfugiés ont été accueillis en Jordanie ? À savoir qu'ils sont comme la Belgique, 10 millions d'habitants, la Jordanie. Combien ? 3 millions ? Notre chiffre ? 2 millions ? Ouais, vous êtes assez proche. 2,7. Ah, le PowerPoint a totalement bougé. 2,7 millions de réfugiés. 2,7 millions de réfugiés. La Jordanie est donc le pays qui accueille le plus de réfugiés au monde, et ce sont principalement des Syriens, qu'ils ne considèrent pas comme des réfugiés ou des gens qui vivent dans le pays à côté. Non, ils les considèrent comme des frères et ils les incorporent tels quels. 2,7 millions de réfugiés. Alors, la Belgique a également une longue tradition d'accueil. Les Italiens, les Marocains, une longue tradition. Notre pays s'est en partie construite sur cette tradition d'accueil. On va comparer les chiffres, même si ce n'est pas comparable, je vous rassure. 2015, pic migratoire, combien de demandes d'asile ont été acceptées en Belgique ? Donnez un chiffre. 50 000, j'entends 6 000, on est plus proche de 50 000. 44 760. J'ai fait un petit calcul, ça correspond à 0,4% de la population belge si il y a une intégration complète. Deux tiers sont des Syriens, des Afghans ou des Irakiens. Vous connaissez la situation de ces pays. 44 760. Ça ne veut pas dire qu'il faut en accueillir 2,7 millions, c'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Je remets les choses un peu en perspective. On peut se dire, oui, mais la Jordanie, c'est un pays qui, financièrement, économiquement, s'en sort bien. C'est pas le niveau de la Belgique, mais ça peut aller. Autre exemple, l'Ouganda. Donnez un chiffre. Vous n'osez plus. Vas-y. Bravo. 1 million de personnes accueillies. L'Ouganda qui est un pays, enfin, qu'on appelle nous un pays en voie de développement, un pays avec de grosses difficultés. L'Ouganda a accueilli 1 million de Soudanais. Soudan qui est un pays totalement ruiné, en guerre civile, avec des famines, avec des génocides. L'Ouganda a accueilli 1 million de Soudanais. L'Ouganda a même été plus loin puisqu'il considère que ces réfugiés doivent servir à l'économie ougandaise. Il leur donne un terrain, il leur donne des semences et ils leur disent de cultiver. 1 million. La crise migratoire, c'est une des plus grandes catastrophes humanitaires actuelles. Et comme la rue d'autrefois, les réfugiés qui frappent à la porte de l'Europe sont considérés en général comme la rue d'autrefois, pauvres, étrangers, un poids. On les suspecte de toute une série de choses. Nous sommes remplis de préjugés. Rien n'a changé par rapport à la vision que les habitants de Bethléem avaient de Ruth. Rien n'a changé. Et je vous rassure, ces gens qui frappent à la porte de l'Europe, qui viennent, qui tentent en tout cas de venir, c'est pas par plaisir. Ce n'est pas par plaisir. J'ai accueilli il y a quelques mois un Soudanais de 17 ans chez moi parce que je me posais la question, mais comment en es-tu arrivé là? On ne peut pas croire ce qu'il nous raconte. On ne peut pas croire ce qu'il nous raconte qu'à 17 ans, il a vécu des choses que personne ne devrait jamais vivre. Photo à l'appui sur son téléphone. Les mines, d'abord, pour payer les passeurs. La Libye, la prison, la torture. La Méditerranée, l'Italie, la Belgique, le renvoi en Italie. La Belgique, encore. Avec l'espoir, avec le rêve d'aller en Angleterre. J'avais besoin de savoir. C'est pas par plaisir qu'ils viennent ici. Mais alors comment aider? Comment agir? Que faire par rapport à cette crise et par rapport à ces situations? Une des manières, évidemment, et là, je parle évidemment pour moi, pour ADRA, parce qu'ADRA, c'est l'organisme adventiste, donc l'Église adventiste donne le mandat à ADRA pour s'occuper des réfugiés aussi. Soutenir notre travail au niveau d'ADRA, c'est évidemment aider et accueillir l'étranger. C'est éviter justement toute une série de souffrances à ces personnes. Et je peux vous assurer que depuis ces 5 dernières années, notre travail au sein d'ADRA a évolué aussi en fonction de cette crise. Nous avons malheureusement dû ouvrir et gérer des camps un peu partout dans le monde. Pour accueillir l'étranger, c'est le mandat que l'Église adventiste nous a donné, nous, en tant qu'ADRA. Accueillir l'étranger, où qu'il soit, peu importe son origine. Alors, soutenir le travail d'ADRA, c'est une chose, et c'est bien, et je vous encourage évidemment à le faire. Mais à votre niveau, à notre niveau, que pouvons-nous faire dans la vie de tous les jours? Ça, c'est la vraie question. Eh bien, c'est assez simple, il suffit de regarder autour de nous, il suffit de regarder chez nous, en Belgique, à quelques kilomètres d'ici, comment des centaines de réfugiés sont traités, dormir dehors. Vous avez vu le temps qu'il fait, il a gelé cette nuit. Centaines de réfugiés en transit, qui ne sont pas pris en charge, dorment dehors. Comment accueillons-nous, en tant que communauté chrétienne, l'étranger? Pas l'étranger facile qui est ici avec nous, voilà, qui vient en visite. J'entendais des palermitains, c'est à côté de chez moi aussi. Ça, c'est facile, c'est plus facile. Non, des étrangers qui n'ont pas la même culture, pas la même idéologie, qui sont vraiment totalement différents. Que pouvons-nous faire? Plein de choses. Malheureusement, dans mon parcours de directeur depuis 2 ans et demi, quand je me rends dans les églises, souvent les interrogations que je reçois sont plutôt de cet ordre-là. Oui, on peut accueillir les réfugiés de guerre. Mais les réfugiés économiques, je ne suis pas vraiment sûr. Oui, mais bon, de toute façon, ceux qui sont au parc Maximilien, ils ne veulent pas faire de demande d'asile en Belgique. Alors bon, c'est un peu de leur faute quand même, puisqu'ils ne veulent pas être pris en charge. Question fatale, et nos SDF alors? Hein, c'est bien d'aider des réfugiés, mais que fait-on de nos SDF? Comme s'il fallait choisir la misère. La plupart des gens qui disent ça, en général, ne s'occupent pas non plus des SDF, de toute façon. Il faut être réaliste. Dernière question. Nous ne pouvons pas accueillir, et là, le texte a bougé, toute la misère du monde. Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. 0,4%, toute la misère du monde. Ça, c'est des questions qui, malheureusement, dans nos communautés, existent. Ce sont des questions qui existent dans nos communautés, qui ne sont jamais que la représentation des questions qui existent dans la société civile en Belgique. Rappelons-nous les Écritures, rappelons-nous le mandat biblique et retournons dans le texte de Matthieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Sans aucune condition. Parce que toutes les interrogations, toutes les questions qui sont sur la gauche du tableau, c'est mettre des conditions. C'est opposer la misère humaine. Lui oui, lui non. Lui vient d'un pays où il y a des problèmes économiques, de famine, il peut y retourner aller cultiver. Par contre, lui, il vient d'un pays en guerre, c'est plus triste, on peut l'aider. On n'oppose pas la misère. Il n'y a aucune condition dans le mandat biblique. C'est l'accueil inconditionnel. Et ce matin, je vous encourage vraiment à prendre position en tant qu'Église, en tant que communauté, à se poser les bonnes questions par rapport à cette crise migratoire et surtout à défendre les droits humains parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Il y a beaucoup de contre-vérités par rapport à cette thématique, beaucoup de chiffres, beaucoup de perceptions qui sont parfois erronées. Et je terminerai par un petit tableau qui ne sont pas des chiffres que moi j'ai sortis ou Cadra a inventés. Ou... Non, pas du tout. C'est les chiffres des Nations Unies sur le nombre de personnes qui sont arrivées en Europe. La totalité depuis donc la crise migratoire, on est même remonté un peu avant en 2014, c'est 1 879 759 personnes ont atteint l'Europe. Nous sommes 511 millions d'Européens. Petit calcul, ça représente 0,36% de la population. Quand on entend dans les discours invasion migratoire, tsunami migratoire, ça, ce sont les chiffres. 0,36%. Chers frères et sœurs, défendre les droits humains dans nos églises, ce n'est pas de la politique. C'est accomplir le mandat biblique. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Et je terminerai en vous disant ceci. Nous qui attendons impatiemment le retour du Christ, réfléchissons à l'Église qui se présentera à lui. Je fais la même réflexion dans ma propre Église. Voulez-vous une Église de théologiens, d'experts de la loi, ou voulez-vous une Église vivante, vibrante, accueillante, une Église qui, par ses actes, témoigne? Et posons-nous ce matin les bonnes questions. Avons-nous accueilli l'étranger? Avons-nous ouvert nos portes d'églises qui sont utilisées une ou deux fois par semaine? Avons-nous ouvert nos cœurs sans avoir peur de la différence? Et enfin, oserons-nous agir comme le Christ le demande? Les Nations Unies donc ont déclaré la journée du 20 juin comme journée mondiale du réfugié, mais ça doit aller au-delà d'une simple journée. Cette journée ne doit pas être une fin en soi. C'est tous les jours qu'il faut réfléchir à cette condition, à cette situation. Et surtout, prier pour ne jamais être dans cette situation. Beaucoup d'entre nous ont vécu également l'exil. Rappelons-le nous. Vous pouvez agir avec ADRA, évidemment, mais aussi dans votre église, dans vos foyers. Nous pouvons tous ensemble accomplir cette demande du Christ. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Je terminerai par une petite vidéo d'une expérience qui a été réalisée par Amnesty International en Belgique. Vidéo qui part du principe que mettre deux individus face à face en silence pendant quelques minutes crée automatiquement du lien. Ils sont donc partis du principe de mettre face à face un Belge et un primo-arrivant, ce qu'on appelle primo-arrivant, un réfugié venant d'arriver. Je vous invite à regarder la vidéo. Merci de votre attention.